Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par les radios associatives non commerciales de votre région. C'est Radio Lodève qui en est le rédacteur en chef pour ce mois de février. Au sommaire de ce carnet de région, les PALS qui se modernisent à Montpellier, Alice Berthias de RCF Maguelone, Hérault a rencontré le directeur adjoint de l'association de santé au travail. Jeudi était la journée de lutte contre le suicide, Radio Aviva est partie à la rencontre de SOS Amitié, le dispositif de bénévoles le plus important dans la prévention du suicide. Amand de la région Occitanie a inauguré cette semaine la nouvelle formation de l'école régionale du numérique. Alors pourquoi implanter une école régionale du numérique en Lozère? La réponse d'Aurélie Mayol, vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, au micro de Ludovic Terol de 48 FM. L'ancien boxeur Jean-Marc Mormec, devenu haut fonctionnaire, a consacré une journée à parcourir le territoire montpelliérain pour présenter une plateforme qu'il a lancée pour accompagner les jeunes vers un stage ou encore un premier job. Radio FM Plus était au rendez-vous et a fait un résumé de cette visite. À Lodève, c'était le clap de fin pour le projet mondial Inside Out avec une exposition éphémère dans les rues de la ville de portraits de Lodévois. Marie-Laure Janton, la coordinatrice du tiers-lieu des ateliers pédagogiques personnalisés à l'initiative de ce projet, reviendra sur cette aventure d'un an auprès de Radio Lodève.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
À Montpellier, les PALS se modernisent. L'association de santé au travail accompagne 3500 entreprises dans l'Hérault. La loi El Khomri, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, bouleverse le fonctionnement de la médecine du travail. L'objectif, plus de prévention pour moins de réparation. Alice Berthias a rencontré Frédéric Bonnet, directeur adjoint de l'EPALS pour RCF Maguelone Hérault.
La loi travail, ou loi M. Khomri, qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017, qu'est-ce qu'elle change concrètement sur cette question de la santé au travail?
Aujourd'hui, la loi El Khomri nous amène sur un terrain qui est plus de prévention et moins de réparation. Le suivi individuel des santé, enfin, du santé au travail des salariés évolue. Aujourd'hui, on passe clairement en fait, d'une démarche en fait, où on avait un suivi systématique tous les 2 ans pour chaque salarié, à plus aujourd'hui un suivi individuel, où chaque salarié va bénéficier d'un suivi santé-sécurité au travail qui va dépendre de son âge, de son état de santé, de son poste de travail, des risques auxquels il est exposé. Et donc c'est le médecin du travail qui va pouvoir définir bah, du coup, son suivi santé-sécurité au travail tout au long de sa carrière professionnelle.
Et ça, à quel besoin ça correspondait?
Le premier point, c'est on va dire une pénurie des médecins du travail sur l'ensemble du territoire national, comme pour toutes les pros, on va dire toutes les spécialités de médecine. Par contre, en deuxième lieu, c'est aussi introduire de nouveaux professionnels qui permettent du coup d'avoir plus, on va dire, un axe de préventeur, de prévention, et qui derrière vont pouvoir venir conseiller et accompagner le salarié dans son suivi santé et sécurité au travail.
Quels sont les outils en fait que le salarié a pour, voilà, si jamais ça ne va pas au travail?
Donc aujourd'hui, les différents outils, on a plusieurs types de visites. Donc il y aura la visite d'information et de prévention pour tous les salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers. Ces salariés-là donc, verront un professionnel de santé grand maximum dans les 3 mois après leur embauche. Par contre, pour les salariés qui sont soumis à un risque particulier, de type agent cancérogène, le plomb, l'amiante, etc., là, par contre, ce sont des visites qui sont réalisées par le médecin du travail et avant l'embauche pour qu'il puisse être sensibilisé au risque que représente le poste de travail qu'il va occuper. Ensuite, il y a plusieurs types de visites. Il va y avoir la visite de pré-reprise, le jour où le salarié a un incident dans sa carrière et du coup a un problème de santé, que ce soit un accident de travail, une maladie professionnelle, mais un accident basiquement tout court de la vie courante. Là, du coup, il va y avoir une visite qui va permettre de préparer la reprise du travail pour pouvoir le maintenir dans son poste de travail et éviter la désinsertion professionnelle. La visite de reprise qui reste du coup une visite qui est réalisée par le médecin du travail. Et dernièrement, la visite à la demande du salarié, c'est-à-dire qu'à tout moment, tout au long de son parcours professionnel, le salarié va pouvoir demander une visite à sa demande. Enfin, quand je dis une, c'est une, deux, trois, le nombre de visites qu'il souhaite pour pouvoir être accompagné et être conseillé sur bah, du coup, ses conditions de travail et son suivi santé-sécurité au travail.
Vous parlez de faire plus de prévention. Comment ça se passe? Comment on voit que dans une entreprise, il y a vraiment des problèmes?
Alors l'idée... À l'EPALS, donc on va directement dans l'entreprise. On rentre dans l'entreprise et on établit un diagnostic des risques qui sont présents dans l'entreprise. Et ça, c'est les professionnels que nous pouvons avoir, comme toxicologue, psychologue, ergonome, etc. Ce sont ces professionnels-là qui vont établir un diagnostic de l'entreprise et qui vont pouvoir remonter les informations au médecin du travail. Et c'est sur base de ces éléments que derrière le médecin va pouvoir adapter le suivi santé et sécurité au travail des salariés. Il va pouvoir mener des actions de prévention et conseiller le dirigeant d'entreprise sur les démarches qu'il doit mettre en place pour pouvoir du coup prévenir les risques.
Ce jeudi était la journée de lutte contre le suicide. Pour parler de la prévention du suicide, rien de mieux qu'évoquer le travail qu'effectue SOS Amitié. La plupart des Français connaissent cette association au moins de nom, mais moins de 10% d'entre eux ne savent pas forcément l'action qui est menée. Fort de ce constat, cette institution qui existe pourtant depuis plus de 50 ans a sorti récemment un livre intitulé « Sortir du silence, l'écoute à SOS Amitié » écrit par collectif Jean-Noël Pintard, président de SOS Amitié Montpellier, nous en parle au micro de Radio Aviv.
Ce collectif, c'est un ensemble de personnes qui sont des personnes engagées dans SOS Amitié au niveau national, fédéral, qui ont de l'expérience de l'écoute à SOS Amitié, de l'expérience de l'organisation de SOS Amitié, et qui ont voulu faire partager, à travers ce livre, l'essentiel des pratiques de SOS Amitié, et qui a voulu les faire partager à l'ensemble des personnes intéressées par l'écoute en France.
Cette association vient en aide à ceux qui ressentent le besoin de parler, de communiquer, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont envahis par un mal-être. Jean-Noël Pintard nous en dit plus.
C'est une association qui écoute les personnes en difficulté 24 heures sur 24, 365 jours par an, et de trois manières. La première, qui est depuis les origines, c'est le téléphone. Et là, c'est bien 24 heures sur 24. Et puis on écoute également par messagerie, par courriel, où on répond aux messages au bout de 24 heures à peu
c'est
près.
C'est plus récent.
Ça, c'est plus récent. Et également, en même temps, on a créé les réponses par chat, c'est-à-dire une écoute par écrit, mais en direct.
SOS Amitié regroupe plus de 1600 bénévoles au niveau national et 40 à Montpellier. C'est le dispositif de bénévoles le plus important dans la prévention du suicide. Ce livre, composé d'une dizaine de chapitres, revient sur l'histoire de cette association, son organisation en interne et les différentes facettes de ce service d'aide. Une association, un livre dédié et au service de ceux qui en ont le plus besoin. Un reportage proposé par Radio Aviva. La région Occitanie a inauguré cette semaine la nouvelle formation de l'école régionale du numérique au pôle lozérien d'économie numérique à Mende. Il s'agit d'une formation de développeurs web ouverte par la région et dispensée par le Greta Lozère. Cette formation longue et certifiante d'une durée de plus de 10 mois permettra à 15 apprenants de passer le titre de développeur logiciel, préparant notamment au métier de développement web mobile. Mende fait partie des 8 nouveaux sites de formation retenus par la région fin 2016 dans le cadre du déploiement de l'école régionale du numérique. Alors pourquoi implanter une école régionale du numérique en Lozère? La réponse d'Aurélie Mayol, vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, au micro de Ludovic Terol de 48 FM.
Alors d'abord parce que la région a décidé d'implanter des écoles régionales du numérique sur l'ensemble du territoire lozérien et notamment dans les territoires ruraux. Implanter une école du numérique en Lozère, c'était presque une évidence pour nous puisqu'on a déjà un partenariat qui fonctionne avec le département, avec la MLI, avec Pôle emploi, avec le Greta. Donc on savait que le collectif et la mobilisation locale seraient au rendez-vous. Ça n'a pas loupé, ils ont répondu à l'appel à projet et ils ont été retenus. Ensuite, la deuxième raison, c'est que, j'allais dire malheureusement, on constate que sur la Lozère, il y a encore trop de jeunes qui sont peu ou pas assez diplômés. Et on se dit que l'appétence pour les moyens numériques aujourd'hui peut nous permettre de les emmener vers la formation et demain vers l'emploi. Et la troisième raison, c'est que ici, en Lozère, on a déjà un réseau d'entreprises, un réseau économique qui a besoin de ces métiers du numérique. Je citais tout à l'heure BM Service, AGT Conseil à côté de nous. Mais surtout, demain, c'est 90% des métiers qui auront besoin de ces compétences, qu'on soit agriculteur, artisan, commerçant, société de conseil. On aura recours à des personnes avec un profil développeur web ou développeur d'applications, tout simplement. Donc, c'est essentiel pour nous d'implanter une école régionale du numérique en Lozère et dans les départements ruraux, parce qu'il ne faut pas passer à côté de cette révolution de l'emploi et cette révolution industrielle. On veut que tous les territoires puissent se saisir de ce fort potentiel d'emploi demain.
et le conseil départemental de Lozère a mis à disposition les locaux qui accueillent les stagiaires et leurs formateurs depuis le 3 janvier dernier. La région, quant à elle, prend en charge 100% des frais pédagogiques à hauteur de 150 000 euros. L'ancien boxeur Jean-Marc Mormec, devenu haut fonctionnaire, a consacré toute une journée à parcourir le territoire montpelliérain, venu à la rencontre de la jeunesse pour présenter un projet qu'il a initié, une plateforme qui a pour vocation d'accompagner les jeunes vers un stage, un contrat de qualification ou encore un premier job. Radio FM Plus Montpellier était au rendez-vous, tout de suite un résumé de cette visite.
Ce samedi 28 janvier à Montpellier, au quartier Mausson, dans les locaux de l'association Solidarité Dom Tom Héros CSF, l'ancien boxeur Jean-Marc Mormec, sacré 6 fois champion du monde, nommé depuis mars 2016 délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, après une brillante carrière sportive, son nouveau combat, le dispositif Égalité Emploi. Lancé en novembre dernier, ce dispositif favorise l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers sensibles, les plus éloignés du monde du travail, et ce, quelle que soit leur origine. En à peine 3 mois, le haut fonctionnaire Jean-Marc Mormec rassemble différentes entreprises qui proposent au total 800 postes à pourvoir. En parcourant les différentes régions de France, il incite cette jeunesse à ne pas baisser les bras. À la question si ce dispositif démarre sur les chapeaux de roue, il répond ceci.
Oui, ça fonctionne bien, mais je pense que c'est ce que ces jeunes ont besoin, justement. C'est des stages, des formations, de l'emploi, éventuellement. Maintenant, il faut qu'ils postulent. Donc, on est venu aussi pour dire qu'on ne vit pas uniquement qu'en Ile-de-France, mais aussi on va à la rencontre de ces jeunes qui veulent. On va leur parler du dispositif et leur dire qu'aujourd'hui, il y a un outil où ils peuvent s'en servir et qu'il fonctionne bien.
Issu de la Seine-Saint-Denis, plus précisément de Bobigny, Jean-Marc Mormec, devenu haut fonctionnaire, n'oublie pas d'où il vient. Dans ce dispositif, il tient avant tout à transmettre ce que la République lui a permis d'obtenir.
Oui, en tant que citoyen, mais avant d'être un sportif, je suis aussi un garçon de banlieue, de cité, comme on dit, des cités prioritaires de la ville. Donc, ouais, c'est une belle reconversion pour moi. Donc, c'est pour ça aussi, je me dis, il faut que j'aille vers les autres et il faut que je dise que c'est pas parce qu'on sort justement des quartiers difficiles qu'on est voué à l'échec. Justement, si on se bat, si on travaille, il y a que le travail qui paye et le travail récompense aussi. Donc, qu'on m'a proposé ce poste, sans faire partie d'un milieu politique ou autre, gauche, droite ou centre, c'est de dire que je prends ce poste parce qu'on ne peut pas juste se plaindre des politiques en disant ils ne font pas. Donc s'il y a une proposition, c'est aussi de le faire et c'est aussi de dire qu'on peut y faire. Donc alors, ma politique, ça a été justement sur l'emploi très vite, puisque ça fait 8 mois justement que je suis là. Et en 8 mois, ça a été de trouver des entreprises, des gens que je connaissais déjà, qui vont me faire confiance parce que je peux leur parler de la banlieue parce que je connais bien et j'ai pu avoir cette reconversion. Aujourd'hui, ils m'ont fait confiance à monter. Donc, on est en train de travailler aussi sur une deuxième vague pour encore trouver de sociétés, encore trouver des financements et autres pour pouvoir aider ces jeunes.
Après un brillant parcours sportif, aujourd'hui, Jean-Marc Mormec occupe une fonction interministérielle. Il reste modeste lorsqu'on lui dit que ce dispositif est en de bonnes mains.
On le dira. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, moi, j'essaye de faire ce que je peux pour pouvoir les aider.
Propos recueillis par Alim Bouzid pour Radio FM Plus Montpellier. Pour toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance, rendez-vous sur le www.delegation.jeunesseoutremer.org. Un dispositif mis en place par la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Un projet qui s'adresse à tous les jeunes et quelle que soit l'origine culturelle et géographique. Un reportage Radio FM Plus Montpellier.
Clap de fin pour le projet Lodève Inside Out. Ce projet mondial, initié par l'artiste new-yorkais JR, a été porté par le tiers-lieu de l'atelier de pédagogie personnalisée à Lodève. L'objectif, une exposition éphémère de portraits de Lodévois placardés sur les murs de la ville. Marie-Laure Janton, la coordinatrice du tiers-lieu, est revenue sur le projet durant l'inauguration de l'exposition éphémère, un sujet de Radio Lodève.
Notre objectif, c'était de montrer que dans cette ville, il y a plein de gens qui s'activent et que tous les Lodévois sont heureux de vivre à Lodève. Et en fait, c'est une ville charmante qui a un grand pouvoir attractif et que ce soit les jeunes du lycée, les jeunes du collège, les habitants qu'on a rencontrés sur le marché, ailleurs, tous nous ont dit qu'il fait bon vivre à Lodève et c'est ça qu'on voulait montrer. Et peut-être que le coup du sort de la météo, c'est encore pour mettre plus en valeur les sourires des gens. Ça nous réchauffe, quoi. Voilà.
Combien de Lodévois ont participé au projet ?
Au niveau photographique, on a fait 205 portraits. Tous n'ont pas pu être collés parce que pour certains enfants, on n'a pas pu avoir les autorisations parentales parce qu'on ne trouvait pas les parents, tout simplement. Et donc, voilà, il y en a au moins 193 qui sont collés.
Et donc, on retrouve tous ces portraits dans les rues de Lodève, sur les bâtiments publics et les bâtiments privés, car il y a des propriétaires qui vous ont autorisé à afficher.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est... Je pense que... Je ne sais pas comment on peut les remercier encore, mais c'est ce qui donne du corps au projet, parce que... Eux aussi sont concernés par le développement de la ville et presque tous sont des commerçants et c'est significatif pour nous, ça veut dire qu'ils ont envie que Lodève s'ouvre et voilà, nous notre envie c'est que plein de gens viennent franchir la porte d'entrée de la ville et viennent à Lodève, vraiment c'est bien.
Ouais, ça a été, comme on disait, un projet d'un an, ça a été d'une richesse humaine incroyable pour vous.
Pour moi, je crois que je suis pas prêt d'oublier ce projet parce que même si ça fait 30 ans que je travaille ici, j'ai rencontré encore plein de gens nouveaux que je ne connaissais pas, avec qui on a échangé. Même avant-hier, pendant le collage, j'ai rencontré des messieurs âgés avec qui on a pu échanger sur les choses qui vont, les choses qui vont pas, mais c'est la vie, ça. Lodève n'échappe pas aux problématiques de toutes les villes, donc je vois pas pourquoi ça serait une exception. Donc, voilà.
Et donc, bon, malheureusement, avec les aléas de la météo, les affiches, dans quelques jours ou au mieux quelques semaines, on ne les verra plus à Lodève, mais elles sont disponibles aussi sur Internet.
Voilà, l'avantage d'un projet comme ça, c'est que elles vont circuler sur la toile dans le monde entier et voilà, c'est ineffaçable.
Lodève s'inscrit dans un projet mondial.
Voilà. Pour moi, je dis souvent cette phrase de Édouard Glissant, c'est agis local mais pense global. Et ça c'est ce qu'on a fait, on est heureux de l'avoir fait.
Voilà, c'est tout pour ce carnet de région. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.